Mimi, arrête avec ta tronçonneuse. On va louper le début.
Si je devais partir en voyage autour du monde sans aucune barrière à l'imaginaire, je partirais en montgolfière ou avec un âne. Et je me bride sans doute trop l'esprit car rien ne m'empêcherait de parcourir notre planète en tapis volant. Bienvenue, chers auditeurs, dans l'invité du local et bonjour Lucie.
Bonjour.
Alors, le tour du monde, tu le ferais comment, toi ?
Eh bien, j'hésite. Je pense soit en monocycle, soit, pour être un peu plus rapide, peut-être en train à vapeur.
Ah, pas mal, pas mal. C'est à la rencontre de Pierrot Desroulottes, réalisateur participant au festival des 37, que nous serons aujourd'hui pour un moment où imaginaire et réalité se croisent et s'embrassent. Dans la suite de l'émission, on se rend au Théâtre du Tiroir pour assister à la conférence sur l'origine d'Israël et la création des camps de réfugiés à Gaza et ailleurs. Jean-Luc Bansard a mis en place les mercredis pour la paix dans son théâtre où différents rendez-vous, différentes rencontres vous sont proposées à vous, public. On termine l'émission avec Donatien, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe dans le coin, Lucie, aujourd'hui ? Éclaire-nous.
Avec plaisir. Aujourd'hui aussi, je vais faire tenir les actualités en quelques mots, chers auditeurs. Pour commencer, la semaine dernière, à Carrel, se sont terminés des travaux de rénovation de la couverture du préau de l'école. Ce n'étaient pas des travaux comme les autres, puisque ce sont en fait les parents d'élèves, bénévoles, qui se sont relayés pendant 5 week-ends pour réaliser eux-mêmes ces travaux, afin d'alléger le coût total que ça représentait. Et puis, pour nos seniors, vous avez sans doute vu l'affiche, c'est pour bientôt. Le Salon du Bien Vieillir se tiendra la semaine prochaine à l'Espace Mayenne. Sur place, il y aura des ateliers et plein de professionnels de la santé qui pourront répondre à vos questions. Ce sera toute la journée du mercredi 6 décembre à l'Espace Mayenne, à Laval. Et pour finir, toujours à Laval, des fresques du climat sont régulièrement organisées. Il s'agit d'un atelier qui se veut ludique et collaboratif pour mieux comprendre les enjeux climatiques. L'idée est bien sûr de constater ce qu'il se passe et aussi de lancer des pistes de réflexion sur les actions possibles. Les prochains ateliers seront les mardis 23 janvier, 26 mars et 28 mai de 19h30 à 22h30 au Crédit Mutuel de Laval et vous pouvez vous renseigner sur fresqueduclimat.org.
Aujourd'hui, on continue de vous faire découvrir les coulisses du Festival des 37. À notre micro, Pierrot Desroulottes, eh bien, il a réalisé plusieurs films dans le cadre du festival. Je suis venue à sa rencontre à l'école de Saint-Poix. Il nous explique ce qui se prépare avec les enfants. Écoutez, il le raconte si bien.
Alors, je m'appelle Pierrot Desroulottes. Je suis nomade. Comédien ambulant. Et voilà. Alors, le projet, il vient du fait qu'un jour, par hasard, j'ai rencontré Loïc. C'était, il y avait une conférence spectacle organisée par l'AMAV, l'association mayennaise d'action auprès des gens du voyage, qui proposer une sorte de conférence autour des gens du voyage dans la chanson française. Et je suis passionné de chansons françaises, étant moi-même gens du voyage, c'était normal que j'y aille. Et à l'issue de cette conférence, eh bien, il y a eu une petite discussion, et c'est comme ça que j'ai rencontré Loïc pour la première fois, qui m'a demandé si on pouvait se revoir pour parler de différentes choses, projets en particulier. Et il m'a parlé de son fameux festival des 37. Et c'est amusant, comme quoi le hasard ne fait jamais rien au hasard, puisque il y avait peu de temps que je commençais à m'intéresser au film et à la création de petits courts-métrages.
«
Et du coup, il y a eu deux projets de mis en place assez rapidement. Un projet avec, avec Enzo, qui est un petit voyageur, qui est souvent sur le terrain d'accueil de Cran. Et puis, un autre projet avec l'école de l'Aubrière et Saint-Pois. En fait, c'est une école dans deux communes différentes. Ces deux communes qui sont très proches l'une de l'autre. Dans une des deux écoles, il y a les maternelles et les CM, et dans la seconde, les CP et les CE. Voilà. Toujours sur le même thème, le voyage, il fallait proposer quelque chose avec les enfants. Donc déjà, la première chose, ça a été la rencontre avec les enseignants. Donc tout le personnel enseignant et ceux qui les accompagnent, tout de suite, ils ont été... emballés par le projet, puisque c'est des gens qui sont assez ouverts sur l'extérieur. Ils ont envie de découvrir, de faire découvrir, de partager. Donc du coup, on s'est bien entendu dès le démarrage. Voilà, ce qui est très important, parce que pour moi, l'objectif premier d'un projet, c'est que chacun en reparte avec un souvenir, un bon souvenir. Voilà. Parce qu'on ne fait rien d'autre que se fabriquer des souvenirs. Donc j'avais envie de... Ben voilà, sinon c'est pas la peine. Les enfants sont tout de suite montés dans la machine, il n'y a pas de souci pour voyager. On a inventé une petite histoire un peu farfelue. Après, une histoire farfelue, ça ne veut pas dire que c'est une histoire qui ne dit rien, qui ne parle de rien, etc. C'est comme l'humour, on peut dire des choses très sérieuses. On peut aborder des thèmes très variés par le biais de l'humour, de la fantaisie, de la poésie, etc. Mais c'est vrai que j'aime bien qu'une histoire, un film, une évocation, une poésie veuille dire quelque chose. Voilà. Et quand on a quelque chose à dire, eh ben, c'est bien de pouvoir l'exprimer. Enfin, en tout cas, pour moi, l'art, c'est ça. Et la poésie, c'est une nécessité pour cette raison.
Donc, le projet du court-métrage avec les élèves permet aux élèves d'avoir plusieurs rôles, de s'occuper du club, de prendre des photos, d'acquérir le vocabulaire, silence, moteur, action. Ils ont fait aussi la découverte du fond vert. Donc ça, c'est un peu abstrait pour eux, parce qu'ils ne savent pas ce qui va se trouver derrière. Donc, Pierrot les aide à se mettre en scène et après, c'est à eux de jouer. Ouais, c'est formidable, ça permet de laisser libre la créativité de chacun. Au tout départ du projet, il y avait plein d'élèves qui ne voulaient pas trop participer. Et aujourd'hui, il n'y en a pas un qui s'est posé la question de savoir s'ils allaient participer ou pas. Ils y sont tous allés de bon cœur et là, ils sont dedans en fait.
Je ne sais plus qui était poète sans doute, disait la technique peut nous aider, mais c'est la poésie qui nous sauvera. Du coup, on s'est mis à délirer autour de l'idée de qu'est-ce que c'est que l'école, qu'est-ce que c'est que le voyage, qu'est-ce que c'est que la vie, parce que la vie, c'est aussi un voyage. L'école, c'est ce qui nous prépare à notre voyage. C'est l'école qui va nous permettre de remplir nos valises et de faire nos bagages pour partir dans ce voyage-là qu'est la vie. Et notre véhicule, c'est la planète, évidemment, qui va devenir le véhicule de nos enfants, etc. Bon, après, on ne va pas se prendre la tête et le chou dans une petite histoire rigolote et marrante, etc. Mais disons que le fond de la pensée, c'était ça. Finalement, quand on rêve, tout est permis. Et l'école, l'éducation, c'est ce qui permet le rêve et c'est ce qui permet tout le reste qui nous est interdit si on n'a pas ce bagage-là. On a fait toutes les images en extérieur hier. C'est les images qui se passent dans la cour de récré. Donc j'ai pu aussi utiliser mon drone. J'ai un drone qui me permet de faire des images aériennes. Et ça, c'est assez fascinant parce que ça permet des perspectives un peu magiques, inattendues, etc. Et donc, comme j'aime bien mélanger le dessin animé et l'image réelle, ça ouvre un espace supplémentaire, une perspective, etc. Donc voilà, toutes ces images-là, c'est celles qu'on a faites hier à l'école de l'Aubrier. Et puis aujourd'hui, à l'école de Saint-Poix, avec donc juste les CP et les CE, on a commencé à imaginer qui allait monter dans quel véhicule pour faire le tour de l'univers. Alors là, il y en a qui ont fabriqué des sous-marins, il y a des fusées, des motos, des tapis volants, il y a une voiture volante aussi, il y a un train, il y a un poisson, enfin bref. Et donc, ils ont fait des dessins, ils m'ont exposé chacun leur désir de comment ils avaient envie de voyager, avec quel mode de transport. Et on a essayé d'imaginer ensemble, à partir du dessin, dans quelle position ils allaient se mettre. On a filmé sur fond vert. Et après, les dessins feront le reste. Voilà, les dessins ou les maquettes, puisqu'ils vont fabriquer des travaux manuels, des bricolages, etc. Aussi une façon de montrer comment l'école donne les outils pour fabriquer nos rêves. Voilà. Parce que je ne sais plus qui était poète aussi, mais c'était peut-être un autre. Enfin bon, donc comme disait l'autre, qui était toujours poète, il faut avoir de grands rêves pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit. Et donc ces grands rêves-là, on les fabrique avec des attaches parisiennes, avec des ciseaux, de la colle, des feutres et des crayons, et surtout une bonne maîtresse.
Tu le disais tout à l'heure, tu travailles principalement sur le croisement entre le réel et l'imaginaire via notamment des incrustations de dessins. Et donc sur le tournage, ça signifie l'utilisation d'un fond vert.
Oui, bah en fait, c'est une technique de vidéo. Et le cinéma, la vidéo, c'est quelque chose d'un petit peu magique puisqu'on fabrique les images qu'on a envie. Le cadrage nous permet d'éliminer tout ce qu'on n'a pas envie qu'il soit présent. Et aujourd'hui, avec les outils numériques, il y a des filtres extraordinaires. Enfin, on a une boîte à outils qui est remplie de choses incroyables. Et qui sont finalement à la portée de tout le monde, dans la mesure où il suffit d'avoir un ordinateur, ce qui ne représente quand même pas le budget de la métro Goldwyn-Mayer. Et donc, je me sens un petit peu avec cet outil-là, puisque donc, j'ai appris par moi-même, je me sens un petit peu comme Méliès quand, au tout début du cinéma, découvre qu'en arrêtant la pellicule, on fait sortir le comédien et on reprend sans qu'il soit là, on la fait disparaître pour de vrai. Ou en mettant la caméra sur les rails de chemin de fer et le train passe, mais ça écrase personne, mais on a l'impression que le train va nous passer dessus et c'est terrible. Et on peut, etc. Après, il y a une autre chose qui est... Le dessin animé, le dessin, c'est quelque chose qui sort directement de l'imaginaire, sur une feuille de papier. On n'est même pas obligé que ce soit ressemblant. Et puis, d'un seul coup, le dessin animé, il prend vie. Donc, on peut donner la vie à un simple trait, une simple tache de couleur, etc. Et donc, du coup, l'imaginaire prend le pouvoir absolument. Donc, le film qui a souvent tendance à avoir l'air réel, dans ce que je fais, en tout cas jusqu'ici, représente plutôt les choses du réel, du quotidien. Et puis tout ce qui est dessin que j'aime bien animer, déformer, etc., eh bien, représente tout ce qui fait partie du monde de l'imaginaire. J'aime bien mélanger les deux, et la vidéo me le permet, donc j'en use et abuse de façon éhontée, jubilatoire, parce que comme je suis en train de découvrir ça, je suis comme un gamin qui vient de découvrir les Legos. Moi, je plonge là-dedans, et puis je fabrique toutes sortes de bricoles, et donc du coup, je m'amuse beaucoup, ce qui me console du fait de plus voyager.
Après le cinéma, le théâtre. Bon, on ne s'y rendra pas pour assister à une pièce, puisqu'au Théâtre du Tiroir, à Laval, Jean-Luc Bansard a mis en place des rendez-vous pour appeler au cessez-le-feu entre Israël et la Palestine. Mais juste avant, Lucie, tu nous proposes un morceau.
Et oui, Margot, comme c'est une période bien troublée, qu'on vit en ce moment, on a parfois juste envie de s'enfermer chez nous, de ne plus sortir, de se nourrir uniquement de conserves et de chocolat. Bref, de se faire un petit bunker en quelque sorte. C'est avec un morceau sorti en 2018 qu'on s'enferme ensemble sur un fond de rap lofi avec Bunker Buddies de Zamir.
Yo. It's kinda hard to stay calm with all this talk of A-bombs. I can't really ignore it, what with Donald taunting Kim Jong. And since nuclear war is now basically quite imminent, I'm wondering if you'll join me in this basement that I'm living in. It's got accommodations, as amazing as a bunker. We can hunker down and face an Operation Rolling Thunder. I'm stacked on games in case we wanna play and never slumber, and got snacks for days so we don't waste away from our hunger. This is an exclusive invitation, only for the few I'd like to stay with if our days are ever numbered. As a human race, I mean, our population was encumbering this earth in any case, so in a way this really may not be a bummer. A nuclear apocalypse, when it's over we can hunt for oxidants and fuel to take a rocket ship to space from the waste of a once beautiful metropolis, just stocking it with things that are useful, like chocolates, or maybe oxygen would be smarter. Actually, I'll stick to chocolates. And honestly, I'm not exactly sure what has me more scared. It's kind of strange, but I fear climate change as much as warfare. With oceans rising, all the coasts will find themselves submerged, and I don't think the current government has shown enough concern. We've got researchers waving publications in dismay as our leaders keep taking our nation to its grave. So when it comes time to find a place in which to stay, like I mentioned earlier, my bunker basement's pretty safe. In a worst case scenario, an earthquake might bury you, but otherwise I've kept track of every single variable. If temperatures get crazy, my AC will keep us very cool. If oceans rise, we're waterproofed, and I've got a tube that runs about the room a couple hundred feet into the air. My neighbors think that I'm a kook, but there's no being too prepared. So whether it gets hot out or we face nuclear fallout, if you hear this for you, I've got a few feet of room to spare.
Vous n'êtes pas sans savoir ce qu'il se passe en ce moment entre Israël et Palestine. Des événements, des conférences, des moments de réflexion et d'échanges collectifs sont organisés sur Laval chaque mercredi. Nous y étions le 22 novembre. Écoutez. On est ce soir au Théâtre du Tiroir, rue Jean Massé, à Laval, où sont organisés les Mercredis pour la paix en Israël-Palestine. Donc ces Mercredis pour la paix sont organisés par Jean-Luc Bansard. Et ce soir, mercredi 22 novembre, a lieu une conférence sur l'origine d'Israël et la création des camps de réfugiés à Gaza et ailleurs. Je vous laisse dans un premier temps vous présenter.
Je suis Sandrine Mansour, je suis historienne spécialisée dans l'histoire de la Palestine. J'ai fait ma thèse en France, à la Sorbonne, avec le professeur Henri Laurence, et je suis rattachée à l'Université de Nantes.
Daniel Levin, je suis membre de l'Union juive française pour la paix, et je suis enseignant retraité.
Et alors peut-être pour nos auditeurs, qu'est-ce que l'Union juive française pour la paix ?
Alors, nous militons pour une paix juste en Israël-Palestine. Et aussi, nous luttons contre le racisme dans toutes ses formes.
Alors, qu'est-ce qui va être important de repréciser ce soir pour mieux comprendre les enjeux et ce conflit actuel ?
En fait, c'est essentiel de revenir à l'histoire, même si c'est une histoire longue, mais en fait, c'est la même histoire depuis le début. Elle n'a pas varié d'un pouce, d'un projet qui a été pensé au 19e siècle et qui s'élabore jusqu'à aujourd'hui, avec un objectif. S'accaparer une terre pour éviter qu'il y ait la population locale puisse y rester. Et donc c'est très important de revenir sur ces fondamentaux. Ça permet déjà de casser cette idée que l'on entend beaucoup, c'est quelque chose de compliqué. En fait, c'est pas compliqué. De casser aussi le fait, ce qui est beaucoup repris dans les médias, que ça a commencé le 7 octobre, ce qui est le discours de propagande qu'on entend. Et enfin, l'autre chose, on est depuis quand même pas mal de temps, mais pas que sur cette question-là, dans un système d'information qui fait que la propagande est plus forte que les faits. Il faut revenir aux faits. Et les faits parlent d'eux-mêmes. Et les faits, il y a les faits historiques, il y a les faits géographiques, les cartes. Et donc c'est important d'aider les personnes à avoir les outils, les clés, pour après faire leur chemin, voire faire d'autres lectures, entendre d'autres conférences. En tout cas, c'est donner des pistes de réflexion et c'est le pas de côté aussi, prendre du recul et avoir aussi, se dire qu'il faut toujours laisser le temps dire l'histoire, parce que c'est ça qui est important.
Pour nous aussi, l'UJFP, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il faut faire attention aux amalgames, puisque par exemple, on nous explique que critiquer la politique coloniale de l'État d'Israël, c'est de l'antisémitisme. Nous, on pense que ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que l'antisémitisme, c'est la haine, la détestation des juifs en tant que tels. Alors que l'antisionisme, c'est l'antisionisme s'oppose au sionisme, qui est une idéologie politique qu'on peut critiquer et qu'on doit d'ailleurs critiquer, que nous on combat, puisque non seulement toutes les politiques actuelles israéliennes oppriment le peuple palestinien, mais en plus on pense qu'elles sont suicidaires pour l'ensemble des Juifs.
Donc on parle de dates, de faits. Quelle est l'origine de ce conflit ?
Écoutez, il est important de recontextualiser la Palestine, qui était une région reconnue comme telle, avec des cartes qui faisaient partie de l'Empire ottoman. Au milieu du 19e siècle, suite à des réformes économiques qui ont finalement abouti à une fragilisation de l'Empire ottoman, il a été fait en sorte que l'Empire ottoman soit fragilisé au point d'être disloqué, et avec derrière les grandes puissances qui cherchaient à s'accaparer les ressources, puisqu'on était dans l'ère industrielle qui s'annonçait et il y avait beaucoup de ressources, de la main-d'œuvre, et c'était un des objectifs des États européens qui ont mis en place donc une politique coloniale à cette fin. Ce principe d'État colonial, il y a un mouvement minoritaire qui venait, mais je laisserai Daniel en parler, qui est européen et qui va demander sa part du gâteau. Les Palestiniens, comme les Libanais, comme les Syriens, comme les Irakiens, aspiraient à l'autodétermination qu'on leur avait promis déjà oralement au départ. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'à un moment donné, au début du XXe siècle, les promesses orales vont se concrétiser par des mandats qui vont être inscrits d'abord à l'ASDN, la Société des Nations, et repris par l'Organisation des Nations Unies en 1945, sauf pour la Palestine, où les Palestiniens, on leur a promis l'autodétermination, mais concrètement, on ne les laissera jamais s'autodéterminer, parce que dans un jeu de billard à trois bandes, entre les Français et les Britanniques, les Français voulait garder le protectorat sur la Palestine, parce que c'était une puissance catholique, la France, il ne faut pas oublier, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, la France officie des messes consulaires au Saint-Sépulcre. Les gens souvent ignorent que notre laïcité a toujours ce vernis catholique. Et donc, il y avait une communauté importante de Français en Palestine avec des biens importants, et la France voulait le protectorat dans la division de l'Empire ottoman. Et sauf que les Anglais étaient aussi intéressés, notamment à cause du chemin de fer, qui arrivait depuis 1901, qui longeait Haïfa et qui était sur la route des Indes, et que, ne faut pas oublier, c'était l'Empire. Sauf qu'eux, ils ne pouvaient pas s'appuyer, il y avait très peu de protestants, ils ne pouvaient pas s'appuyer sur une force avec des accords qu'avaient les Français dans l'Empire ottoman. Et donc, ils vont s'appuyer sur le mouvement sioniste, à qui ils vont promettre ce territoire, et en disant aux Français, c'est trop tard, nous avons promis, et c'est comme ça qu'ils s'imposent dans le jeu.
Oui, alors il faut revenir sur les origines du projet sioniste. Les origines, ça vient des Juifs de l'Europe orientale, de Russie, qui étaient en but, effectivement, à l'antisémitisme. Il y avait un numerus clausus, par exemple, à l'université, où on les empêchait de faire certaines professions. Il y avait des pogroms. Les Juifs étaient aussi assignés à résidence dans une certaine zone. Ils ne pouvaient pas la quitter sans autorisation. Bref, ils étaient vraiment en but à des persécutions. Certains ont eu l'idée de se dire qu'il faudrait qu'une autodétermination du peuple juif. Il a commencé à la fin du XIXe siècle, quelques petits groupes qui sont partis en Palestine pour tenter d'y construire quelque chose. Ils ont réussi à moitié, il y a la moitié qui sont partis. Et puis le mouvement sioniste s'est structuré avec Theodor Herzl, qui a écrit un livre fameux qui s'appelle « L'État juif », où il décrivait un État composé exclusivement de Juifs. Il faut dire qu'à l'époque, donc à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, la grande majorité des Juifs n'étaient pas du tout intéressés. Alors pour plusieurs raisons. Beaucoup de Juifs à l'époque, dans cette Europe orientale, en Russie, en Pologne, en Tchécoslovaquie, finalement, avait des idées face aux persécutions qu'il subissait, des idées socialistes, révolutionnaires. Il y a eu un grand mouvement qui s'appelle le Bund, par exemple, révolutionnaire socialiste, qui luttait pour l'émancipation des Juifs, mais en liaison avec tous les autres mouvements révolutionnaires. Il luttait contre l'antisémitisme, mais avec toutes les autres forces socialistes, révolutionnaires. Ce mouvement-là était assez important. Les gens du Bund disaient « Non, nous, on lutte, on ne veut pas partir en Palestine, c'est pas intéressant. Nous, on veut lutter contre l'antisémitisme avec tout le monde. » Une autre position aux sionistes, c'est les religieux. C'est-à-dire que les religieux se sont dit « Mais non, nous, on est attachés à notre religion et on ne veut pas remplacer l'attachement à notre religion avec l'attachement à un État. » Et puis, il y avait aussi beaucoup de Juifs qui se disaient « Mais nous, on n'a pas du tout envie de partir en Palestine. On est très bien dans notre pays. Et donc, on ne veut pas partir. On ne veut pas devenir des étrangers dans notre pays. » Alors, il faut dire aussi une chose très importante, c'est qu'au début du mouvement sioniste, les dirigeants sionistes ont essayé de convaincre les chancelleries occidentales à leur idée, en disant très clairement que un État juif en Palestine, ça serait un rempart contre la barbarie asiatique, hein, donc contre les barbares. Sionisme et antisémite, finalement, s'entendent très bien sur le fait de faire partir, faire chasser finalement les Juifs d'Europe ou de tous les pays où ils étaient établis depuis longtemps, finalement. Donc c'est ainsi que Théodore Herzl s'est aussi entretenu avec un ministre russe, je ne me souviens plus de son nom, mais qui était carrément antisémite et pogromiste. Et maintenant d'ailleurs, on voit bien que le gouvernement d'extrême droite israélien s'entend très bien avec certains ministres antisémites d'Hongrie, etc.
Donc nous avons proposé au peuple juif un État en s'installant en Palestine.
En fait, le mouvement sioniste a élaboré plusieurs projets. Il y a eu plusieurs options. Il y a eu l'Ouganda, il y a eu l'Argentine, Madagascar, il y a eu la Syrie également, ça un peu plus tard. Ils ont fait un énorme projet pour mettre tous les Juifs de Pologne en Syrie. Mais en fait, ça ne marchait pas, parce que exactement comme le disait mon collègue, les Juifs préféraient combattre en interne. Et s'ils souhaitaient partir, c'était vers les États-Unis. Et c'est parce qu'à un moment donné, les portes de l'immigration américaine se ferment à l'immigration dite rouge, c'est-à-dire socialiste, communiste, etc., que le mouvement sioniste va se tourner vers cette option qui avait été envisagée, mais dans un dernier temps, en fait. Parce que le mouvement sioniste est laïque aussi, ce qui est important de dire. Et c'est qu'après qu'ils vont se servir d'une base religieuse pour justifier la prise du territoire et faire les différentes négociations avec les Français, les Britanniques et après les Américains. Mais il y a eu aussi un projet sur l'Ouganda. Il faut savoir ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, sur le bureau du président ougandais, il y a le drapeau ougandais et le drapeau israélien. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en Ouganda en tant qu'État, mais ils ont gardé une influence extrêmement importante sur ce territoire. Et c'est assez intéressant. Et en plus, quand ils décident de venir faire leur demande auprès de la France et de la Grande-Bretagne pour se mettre en Palestine, en fait, moi j'ai retrouvé une carte dans les archives diplomatiques qui montrent qu'ils ont demandé la Palestine, le Liban, la Transjordanie, ce qui deviendra la Jordanie, la moitié du Sinaï et un petit bout de l'Arabie Saoudite. Donc, on voit bien que leur objectif était beaucoup plus et qu'ils n'ont jamais cessé d'avoir cet objectif. Ils ont attaqué le Liban, même aujourd'hui, ils disent qu'ils veulent prendre le Liban. La Syrie, ils ont pris le Golan. Le Sinaï, ils l'ont déjà pris. Donc, leur objectif, il a toujours été très clair. C'est prendre un énorme territoire dans ce Moyen-Orient. Parce qu'en face, et c'est très intéressant dans ce document qui figure maintenant dans les références, c'est qu'en face de chaque région, vous aviez les ressources qui existaient dans le pays. On est exactement sur le même schéma que les États coloniaux européens. Et donc, voilà, ils ont ce projet-là jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le gaz au large de Gaza aussi, il ne faut pas oublier. Donc, il y a tous ces enjeux également qu'ils veulent récupérer, comme ils ont essayé de récupérer le gaz au large du Liban. Des années de négociations qui se sont conclues par un nouveau découpage territorial maritime entre le Liban et Israël.
Il y a un film sur lequel vous avez travaillé en tant qu'historienne sur ce sujet, justement.
Un film de Maris Gargour, qui a eu plein de prix, qui s'appelle « La terre par l'arabe ». Il est tout à fait disponible gratuitement et ça permettra de donner les clés. Donc, « La terre par l'arabe » de Maris Gargour.
Le prochain rendez-vous aura lieu demain, rue Jean Massé à Laval, avec la projection du film « Un autre son d'Israël, ces Israéliens combattants pour la paix et contre l'occupation », un documentaire de Laurent Billard. Bon, maintenant, c'est une voix unique, des mots que l'on ne saurait pas écrire nous-mêmes, ils se réinventent sans cesse. Vous me voyez venir, c'est la chronique de Donatien.
Donatien se souvient que dans les années 80, 1980, au siècle passé donc, un collègue, systématiquement et quotidiennement, ne cessait de répéter à l'envi « ça va péter, c'est sûr, ça va péter, ça peut pas durer, ça va péter ». La révolution, annoncée avec autant de fougue que de crainte, n'a pas eu lieu. Le monde tourne encore et le monde est petit. Si petit le monde et si grand le hasard que récemment, en vacances sur l'île de Beauté, Donatien croisa son ancien collègue sur le marché d'Ajaccio. Donatien l'entendit avant qu'il ne le vit et reconnut la voix de ce Cassandre prédire dans ses termes révolutionnaires que « ça va péter, c'est sûr, ça va péter ». Il en faut plus en Corse pour s'émouvoir. Le maraîcher, imperturbable, mais commerçant, acquiesçait sans sourciller aux prédictions apocalyptiques et, dans la crainte de la fin du monde, soldait ses melons à condition qu'on les prît par deux. Convaincu par le prosélytisme de ce client continental, il annonçait lui aussi la fin. « C'est la fin !» hurlait-il au chaland, lui parlait de la saison des melons, tandis que le collègue touriste et trotskiste profitait de l'occasion pour se procurer quatre beaux melons craquelés, bien lourds et promis à un avenir juteux, accompagné d'une chiffonnade de jambon corse, bien sec et bien salé. On était mi-juillet. Donatien et son collègue découvrirent qu'ils séjournaient dans le même hôtel de plein air, appellation ronflante pour ce qu'on nommait plus simplement autrefois camping. Sous les 3 ou 4 étoiles, ils se retrouvèrent le soir, firent péter quelques bouchons sur la terrasse du mobilhome et au bout de quelques coupes, envoyèrent tout péter, vouant aux gémonies les fonctionnaires, les politiques qui faisaient la morale, mais pétaient dans la soie, les bourgeois qui pétaient plus haut que leur cul, et quelques extrémistes à qui ils auraient bien pété la gueule. Heureusement, ce n'était que des mots. La soirée se prolongea par une partie de pétanque en attendant les pétards du feu d'artifice. Le lendemain, le collègue révolutionnaire repartait vers Porto Vecchio, puis Bonifacio. Donatien voulait de son côté revoir les calanques de Piana. Il poussa jusqu'au golfe de Porto, où l'eau transparente invite à la baignade même les moins courageux et les plus frileux. À peine entré dans l'eau, il se mit sur le dos, savourant cette plénitude, ce calme que seul les polyphonies corses savent traduire en musique. En cet instant de paix, toutes les cellules, atomes et molécules de son corps se détendirent. Il flottait sur un miroir d'eau translucide et, seul au monde, il éprouva, sans retenue aucune, la jouissance extrême de se laisser aller à péter dans l'eau. Autant de bulles qui remontèrent à la surface éclatèrent sans gêne ni regret de voir que toutes les velléités de ces années révolutionnaires s'étaient évaporées.
mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
L'agité du local est terminé à 19h, on écoute au catering.
Oui, avec Steven, Corentin, Simon, Léo et bien d'autres. Ils partagent leur dernière découverte musicale. Tous les styles sont acceptés, sauf le reggae. Et attention, ici, il est interdit de mettre les coudes sur la table.
Et à 21h, la soirée se prolonge.
Oui, Margot, c'est Frère de Chaussures qui prend la suite. Et c'est Fatshu qui nous propose cette émission sur le rap français.
Chers auditeurs, merci de votre fidélité à l'agité du local. On vous retrouve demain sur les ondes de l'autre radio. Bonne écoute, régalez vos oreilles. Et puis surtout, faites-le bien.
Bon ben Mimi, on dirait que c'est fini.